Bonsoir, le secrétaire général va vous donner un point sur les décisions prises par les ministres de défense de l'OTAN et ensuite pourra répondre à certaines de vos questions. Bonsoir, nous venons d'approuver un certain nombre de décisions importantes pour renforcer la dissuasion et la défense de l'OTAN, la défense de notre territoire et la protection de nos citoyens est la mission essentielle de l'OTAN. Et nos décisions d'aujourd'hui assureront une continuité de ces efforts dans un monde de plus en plus dangereux. L'OTAN est une alliance qui produit des résultats. Nous avons maintenant mis en œuvre le plan d'action réactivité adopté au sommet du Pays de Galles il y a 2 ans. L'envergure de la force de réaction de l'OTAN a triplé et cette force peut désormais être déployée partout sur le territoire de l'Alliance. Sa force fer de lance à très haut niveau de préparation peut être déployée en quelques jours afin d'assurer une première réponse en cas de crise émergente. Sa composante terrestre, dirigée cette année par l'Espagne, a fait l'objet d'un exercice réussi en Pologne il y a quelques semaines seulement. Et 8 nouveaux QG sont à présent opérationnels sur la partie orientale du territoire de l'Alliance. Ces avancées sont majeures et sont une contribution importante à la capacité de l'Alliance à renforcer en cas de besoin. Aujourd'hui, nous adoptons les étapes suivantes et nous consolidons les réussites. Nous avons décidé de renforcer notre présence avancée dans la partie orientale de l'Alliance. L'OTAN déploiera sur base de rotation 4 bataillons multinationaux robustes en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Et je salue les engagements pris par un certain nombre d'alliés aujourd'hui à contribuer à ces bataillons. Nous allons également adopter des mesures adaptées pour renforcer la défense et la dissuasion en région Mer Noire. Il y aurait également davantage de matériel et de vivres prépositionnés, ce qui envoie un message très clair. Si un de nos alliés est attaqué, toute l'Alliance répondra, réagira de manière unie. L'OTAN ne cherche pas la confrontation. En effet, nous cherchons à développer un dialogue constructif avec la Russie, mais nous défendrons nos alliés contre toute menace. Nous avons également parlé de la liberté de mouvement des forces de l'OTAN à travers l'Europe durant notre réunion aujourd'hui. Il est essentiel d'assurer un déplacement sans heurts de nos troupes et de notre matériel pour des exercices en temps de paix, pour des renforcements en cas de crise émergente. Le temps est clé. Depuis la fin de la guerre froide, ce n'était pas vraiment au programme, mais les défis dans notre voisinage ont fait de cela une priorité. Beaucoup de nos procédures ont dû être revues et simplifiées. En automne dernier, nous avons étudié une carte de l'Europe démontrant la difficulté de déplacer des troupes d'un pays à l'autre avec des courts préavis. Et nous avons utilisé les feux de circulation comme analogie et avons pu constater que de grandes parties de la carte étaient au rouge. Nous avons œuvré depuis lors et atteint des améliorations majeures. Les alliés de l'OTAN ont allégé et amélioré des procédures bureaucratiques souvent complexes avec l'appui des ministères et des parlements. À présent, toute la carte est verte, ce qui représente une amélioration majeure dans la capacité de déployer nos forces rapidement. Nous étudions maintenant quelles sont les mesures ultérieures à prendre, par exemple dans le domaine des chemins de fer, des aérodromes et des ports maritimes. Il reste beaucoup de travail à faire encore, mais nous avons démontré que quand on veut, on peut. Notre posture de défense et de dissuasion est de plein spectre, de la résilience et la défense nationale aux capacités conventionnelles et la défense antimissile balistique, et également la dimension nucléaire. Aujourd'hui, nous avons également eu une réunion du groupe sur les plans nucléaires pour étudier la sécurité, la sûreté et l'efficacité de l'élément dissuasif nucléaire de l'OTAN. Nous avons également consacré notre attention au cyberespace. Nous avons décidé qu'au sommet, nous reconnaîtrons le cyberespace comme domaine opérationnel, tout comme les domaines aériens, maritimes et terrestres. La cyberdéfense fait partie de notre défense collective. La plupart des crises et des conflits aujourd'hui ont une dimension cybernétique. Et donc de traiter le cyber comme domaine opérationnel nous permettra de mieux protéger nos missions et nos opérations. Tous nos efforts consacrés au renforcement de la défense et de la dissuasion dépendent des bonnes capacités et des bonnes ressources. Nous nous sommes engagés il y a 2 ans de mettre fin aux coupes budgétaires en matière de défense et de relancer les augmentations dans ces budgets afin d'atteindre notre seuil des 2% du PIB en l'espace d'une décennie. Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, mais depuis l'année de cet engagement, nous avons accompli des progrès. En 2015, nous avons pu constater une légère augmentation en dépenses de défense parmi les alliés européens et au Canada. D'après nos estimations, ces augmentations se poursuivront en 2016. Donc après de nombreuses années de coupes dans les dépenses budgétaires en défense, nous sommes à nouveau sur la bonne voie. Certes, nous ne sommes pas au bout du chemin. Nous devons maintenir cet élan et appuyer nos efforts dans le long terme. Nous parlerons de cela à nouveau au sommet de Varsovie afin d'être certains que nous faisons ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de nos pays. Sur ce, je suis prêt à répondre à vos questions. AFP.
Monsieur le secrétaire général, merci d'écouter mes questions. En ce qui concerne le cyberespace, déclarer cela, cette dimension comme un domaine opérationnel, qu'est-ce que cela implique pour les États membres de l'Alliance en termes concrets? Comment vont-ils gérer cette dimension cyber d'un point de vue militaire en termes d'investissement, de capacité militaire à acquérir ou à renforcer? Réponse. Eh bien, tout d'abord, ça nécessite de coordonner, de structurer nos efforts pour nous protéger mieux contre les cyberattaques et surtout de façon plus efficace. Il s'agit en fait de développer notre capacité à protéger un cyberréseau OTAN, mais également apporter notre aide aux pays pour les aider à défendre leur cyberréseau. Alors, il est difficile d'imaginer un conflit militaire aujourd'hui sans une dimension cyber-espace. Eh bien, cela est tout à fait pertinent par rapport à tout conflit que l'on pourrait imaginer pour l'avenir. Donc, il s'agit de mettre en place un meilleur cadre pour gérer les ressources, les compétences, les capacités et assurer une meilleure coordination de nos décisions. La décision, nous l'avons prise aujourd'hui, donc que la dimension cyber devienne un domaine comme le domaine air, terre, mer. Et puis, il y aura encore du travail à faire sur les détails, la mise en œuvre pratique, mais nous moins, la décision a été prise de créer un domaine indépendant pour la cyberdimension en reconnaissant les défis que cela représente pour l'Alliance. Baltic News Service, deuxième rang. Question. Monsieur le secrétaire général, sur les bataillons dont vous avez parlé, nous comprenons que la dissuasion est la clé, mais est-ce que ces bataillons pourraient mener les opérations de combat dans le besoin? Est-ce que ces 4 bataillons suffiront pour assurer la défense des États baltes et de la Pologne en cas de conflit, sachant que la Russie, en réaction, a l'intention de déployer 3 divisions supplémentaires à sa frontière occidentale? Réponse. Je voudrais tout d'abord vous dire que nous ne percevons pas de menace imminente à l'encontre d'un allié ou de l'OTAN. Alors, les bataillons sont prêts pour le combat. Le niveau de préparation sera donc très élevé. C'est leur objectif. Et il est important de comprendre que les bataillons ne constituent qu'un élément d'une réponse plus large fournie par l'OTAN. Nous avons accru le niveau de préparation, nous avons triplé la taille de la NRF et nous avons mis en place la force de fer de lance de niveau de préparation très élevé qui peut être déployé en l'espace de quelques jours. Et la taille de 40 000 hommes de troupes, ça montre que nous avons cette capacité de renforcement si nécessaire. Et puis nous avons un petit QG mis en place à l'est de l'Alliance. Nous avons mené davantage d'exercices pour tester le déploiement et le renforcement si nécessaire. Et nous avons opté pour le prépositionnement de davantage d'équipements et d'approvisionnement. Donc, il s'agit là d'une chaîne où nous avons plus de présence à l'avant, avancer plus d'éléments de commandement, de contrôle, multiplier les exercices, l'équipement prépositionné avec 40 000 troupes de forces de réaction, de réponse OTAN, qui peuvent être déployés dans le cas de besoin. Tout cela associé aux forces, évidemment, des différents territoires et des pays de l'Alliance pour assurer la dissuasion et la force militaire nécessaire pour envoyer un message très clair. Donc, ce n'est pas que l'OTAN cherche à faire la guerre ou provoquer un conflit, mais nous savons qu'une forte dissuasion est la meilleure prévention de guerre. Et d'ailleurs, cela a été accueilli durant la réunion aujourd'hui et plusieurs pays, d'ailleurs, ont pris des engagements, se sont engagés à participer à cette force avancée renforcée. Question. Monsieur le secrétaire général, Donald Trump a attaqué l'OTAN, le considérait comme pas pertinent. Est-ce que cela est une source de préoccupation pour les membres de l'OTAN et quelles sont vos réponses à ces critiques? Eh bien, réponse, nous avons beaucoup d'autres préoccupations que la campagne électorale américaine et je laisse aux Américains le choix de décider qui sera leur prochain président. Moi, je me limite à dire ce qui est important pour l'OTAN et que nous avons approuvé à travers la réunion d'aujourd'hui et dans nos opérations, le fait que nous sommes tout à fait pertinents et que nous pouvons nous adapter à un environnement de sécurité qui évolue et que nous produisons des résultats aussi bien au niveau de la préparation de nos forces avec un élément de déploiement avancé renforcé qui permet de renforcer notre défense collective, mais également pour faire face aux défis que nous voyons émaner du Sud, le terrorisme, la violence, l'instabilité. Donc nous travaillons de pair avec les pays partenaires de la région, Afghanistan, Irak, la Tunisie, la Jordanie et d'autres, pour les aider également à renforcer leurs forces locales, à les entraîner et que nous puissions les aider à lutter contre Daesh, le terrorisme et à stabiliser leur propre territoire. Et pour les États-Unis, il est également important de rappeler que le seul moment où l'OTAN évoquait l'article 5 était après une attaque menée contre les États-Unis, donc le 11 septembre. Les alliés européens de l'OTAN et le Canada, ainsi que les pays partenaires de l'OTAN, ont mis à disposition des forces sur plusieurs années en Afghanistan et plus de 1 000 soldats des pays européens de l'Alliance du Canada et des pays partenaires ont été tués en Afghanistan dans une opération qui était en riposte directe à une attaque menée contre les États-Unis. Cela montre que l'OTAN garde toute son importance pour l'Europe, mais également pour les États-Unis. Et les deux guerres mondiales nous ont appris que la paix et la stabilité en Europe avaient également son importance pour les États-Unis. Merci. Roumanie, deuxième rangée. Question. Merci, Monsieur le secrétaire général. Je voudrais vous demander ce qu'est la décision des ministres prise en ce qui concerne la région de la mer Noire. Et également, une autre question sur les brigades multinationales en Roumanie. Quels seront les principes qui vont régir ce groupe, cette brigade après le sommet? Nous avons déjà, réponse, accru notre présence dans la mer Noire. Ça fait partie de nos mesures d'assurance. Nous avons mené des missions de police du ciel, nous avons augmenté notre présence navale et multiplié les exercices. La décision qui a été prise maintenant, c'est de renforcer davantage, d'intensifier nos efforts et notre présence dans la mer Noire. Nous en avons discuté lors de notre réunion de la mise en place d'une brigade multinationale dans le cadre de la division multinationale Sud-Est en Roumanie. Donc, c'est un nouvel élément. C'est une proposition qui émane de la Roumanie. Et ce qui est important, c'est que nous avons décidé de mettre en œuvre des mesures adaptées, ciblées, pour la mer Noire, le sud-est de l'Alliance. Les modalités concrètes devront encore être mises à l'examen, mais il y aura une présence accrue de l'OTAN et je salue l'initiative et les propositions de la Roumanie dans ce sens. Question ? Télévision allemande. Monsieur le secrétaire général, quelles sont les décisions qui reste à prendre pour les chefs d'État à Varsovie à l'issue de la ministérielle? Réponse. Vous savez, on ne sait jamais ce qui peut se produire dans les 3 semaines qui vont suivre. Il faut se préparer à l'imprévu. Mais la réalité est que le sommet est un moment important, que cela permettra de prendre des décisions définitives, d'annoncer l'engagement des alliés par rapport à la mise en œuvre des décisions qui ont jeté les bases de ce sommet. Voilà, c'est toujours un peu l'objectif d'un sommet. Donc moi, je continue à penser que le sommet sera important parce que cela permettra de prendre les décisions définitives sur la dissuasion, la défense, la présence avancée renforcée et le travail concret d'assistance à l'Irak, à l'Afghanistan, ainsi que d'autres pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, de voir comment les aider. Donc, il y a encore beaucoup de décisions qui devront soit être prises, confirmées ou entérinées, mises en œuvre, et le sommet fera date à cet égard.
Monsieur le secrétaire général, vous avez évoqué la décision de rendre le domaine cybernétique un nouveau domaine pour la guerre. Donc, quid des scénarios article 5 pour l'OTAN? Est-ce que l'OTAN doit développer des capacités d'identification éventuelle des responsables des attaques contre des pays de l'OTAN en cas de cyberattaque? Par ailleurs, est-ce que l'OTAN doit développer des moyens cybernétiques offensifs afin éventuellement d'attaquer les adversaires éventuels? Réponse. Nous avons décidé qu'une cyberattaque peut causer une invocation de l'article 5 et donc une réaction de défense collective, car les cyberattaques peuvent être très, très préjudiciables, très dangereuses. Il est donc difficile d'imaginer un conflit sans dimension cyber. Donc, je reconnais, le cyber peut déclencher l'article 5. Toutefois, il faut reconnaître également que le cyber n'invoque pas l'article 5 forcément. Il y a une composante cyber en Afghanistan. Il faut assurer la sécurité de nos réseaux là-bas, par exemple. Il faut assurer leur fonctionnement. Il y a toujours les dangers représentés par des hackers, des pirates ou autres qui pourraient porter atteinte à la capacité ou au fonctionnement de nos réseaux dans toutes nos missions, toutes nos opérations. Donc ce n'est pas forcément une opération de l'envergure de l'article 5 où il faut une composante cyber. Il se peut que ce soit dans le cadre d'autres missions ou d'opérations, il faut tenir compte de la dimension cyber. Ce que nous faisons est défensif, mais il est également important de développer nos capacités de défense ainsi que d'assurer l'identification, car une des difficultés dans le domaine cyber, c'est qu'il n'est pas toujours facile d'identifier le responsable d'une attaque. Donc tout ce qui a trait à l'identification est très important et nous développons des capacités d'amélioration de l'identification des cyberattaques. question. Sur le même sujet, vous avez annoncé, on a annoncé récemment une attaque russe contre le Parti démocrate aux États-Unis. Pour l'OTAN, est-ce que la Russie représente le cyberadversaire le plus important? La Russie est-elle responsable des intrusions cybernétiques contre des membres de l'Alliance? Réponse. Notre cyberdéfense n'est pas dirigée contre un adversaire particulier. C'est un domaine que nous renforçons, que nous développons afin d'être en mesure de réagir en cas d'attaque provenant de toute direction. Donc je ne nommerai aucun pays en particulier, je soulignerai simplement que nous redoublons d'efforts afin de défendre nos propres réseaux, que ce soit ici au siège, mais également dans le cadre des opérations et des missions. Il est très important d'avoir des réseaux qui fonctionnent. Et nous assistons également les alliés en cas d'attaque. Nous avons développé des équipes qui peuvent être envoyées sur un site pour une assistance. Et par exemple, dans le cas d'attaques hybrides, la dimension cyber sera une dimension très importante. Il faut donc être en mesure de soutenir, d'appuyer nos adversaires en cas de cyberattaque. C'est un scénario où nous pouvons développer la coopération avec l'Union européenne à ce titre. Nous avons une disposition concernant des mesures de cyberdéfense avec l'Union européenne. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Agence Europa Press de l'Espagne. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir un conseil OTAN Russie avant le sommet afin éventuellement de pallier aux tensions après ces mesures de renforcement de la présence dans les États baltes? Et est-ce que l'OTAN souhaite davantage de clarté de la part de la Russie vis-à-vis de ses prochains exercices militaires? Réponse. Nous sommes prêts à organiser une réunion du Conseil OTAN-Russie avant le sommet, mais bien sûr, il faut se mettre d'accord avec la Russie auparavant, décider d'une date, d'un ordre du jour et des modalités de la réunion. Et nous maintenons une approche pragmatique. Pour nous, il est important de se réunir, car le Conseil OTAN-Russie est une plateforme pour le dialogue, une plateforme d'autant plus importante quand les tensions sont élevées, comme c'est le cas actuellement. Nous sommes également persuadés que le Conseil OTAN-Russie est un instrument qui permet d'éviter des situations pouvant déclencher des évolutions vers l'escalade des tensions. Donc l'un des domaines particulièrement importants pour ces réunions, c'est la transparence, et notamment vis-à-vis des activités militaires. Nous avons constaté des incidents, des accidents, notamment la destruction d'un avion russe au-dessus de la Turquie, ou les survols à proximité des alliés. Et il faut donc faire de notre mieux pour prévenir ou empêcher ce type d'événement, ou en cas de tels événements, d'éviter à ce qu'elles mènent à l'escalade ou à des situations dangereuses. Il est donc très important de se rencontrer. Nous sommes prêts à les rencontrer. Nous consultons actuellement la Russie et nous vous tiendrons informés des résultats une fois que ces consultations sont terminées. Merci. Nous n'avons pas le temps de prendre d'autres questions. Le secrétaire général doit participer au dîner ministériel, mais vous aurez l'occasion de poser des questions demain. Merci.